Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h pour le point actualité. Nawal El Amouchi. À Gaza, la défense civile palestinienne a annoncé au moins 16 morts et des dizaines de blessés, dont certains dans un état critique dans une frappe israélienne. Le Hamas a annoncé vouloir conclure un accord global et complet pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le mouvement a rejeté les tentatives d'imposer un accord partiel avant une visite de Donald Trump au Moyen-Orient. Et le président français Emmanuel Macron a déclaré que la situation dans l'enclave était actuellement la plus critique que nous ayons jamais connue, avant d'ajouter que les déplacements forcés de populations palestiniennes envisagés par Israël étaient une réponse inacceptable selon ses mots. Et 6 autres pays européens dont l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont dénoncé aujourd'hui le nouveau plan de conquête de Gaza présenté par Israël. Ils ont annoncé rejeter fermement tout changement démographique ou territorial dans le territoire palestinien qui constituerait, selon eux, une violation du droit international. Le président syrien par intérim, Ahmed El-Shara, est arrivé à Paris. Il s'agit de sa première visite européenne depuis l'éviction de Bachar el-Assad en décembre. Une occasion pour le président français Emmanuel Macron d'aborder avec lui la lutte antiterroriste selon le chef de la diplomatie française. Et cette visite controversée est vivement critiquée par la droite et l'extrême droite française. Stupeur et consternation a réagi la leader du Rassemblement national Marine Le Pen, décrivant le président syrien comme un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda, selon ses mots. L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, en pleine controverse autour de son roman Houri, est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie. Le lauréat du Goncourt 2024 a d'ores et déjà indiqué son intention de les contester. Et c'est le jour J au Vatican. Les 133 cardinaux qui éliront le pape sont rassemblés en ce moment même dans la chapelle Sixtine pour le début du conclave. Les cardinaux qui sont chargés d'élire dans le plus grand secret le successeur du pape François. Et en France, l'État et la Caisse des dépôts vont mobiliser 350 millions d'euros d'ici 2027 dans les quartiers populaires, notamment pour aider les collectivités locales, les associations ou les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Une annonce de la ministre déléguée à la ville. Place maintenant au magazine d'information de la rédaction. On traite l'actualité nationale et internationale avec profondeur. Et on débute avec la condamnation hier du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de ce plan israélien de conquête de Gaza. Il a assuré que la France entend œuvrer à une solution politique à 2 États. On l'écoute.
Dans l'actualité.
Les Gazaouis manquent de tout. Ils sont affamés. Ils sont assoiffés. Et nous ne pouvons pas, personne ne peut rester sourd aux cris d'alarme de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Personne ne peut détourner le regard des souffrances des familles palestiniennes qui ont été décimées, telles que celles que nous avons rencontrées avec le président de la République il y a quelques jours à El Arish en Égypte, à 30 km de la bande de Gaza. Et c'est pourquoi la France, inlassablement, appelle, comme vous l'avez fait, à un cessez-le-feu immédiat, à l'accès sans délai et sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza et à la libération immédiate de tous les otages du Hamas qui doit être désarmé pour qu'un avenir politique puisse se dessiner pour la Palestine comme pour Israël. Parce que oui, au-delà de l'urgence, au-delà des dénonciations et des condamnations, la France entend œuvrer activement à une solution politique, une solution à 2 États, seule susceptible de ramener la paix et la stabilité dans la région et à répondre à l'aspiration légitime des Israéliens comme des Palestiniens à vivre en sécurité. C'est dans ce sens que nous travaillons pour préparer cette conférence des Nations Unies que la France coprésidera aux côtés de l'Arabie Saoudite, à la préparation de laquelle je souhaite que le groupe d'amitié entre la France et la Palestine, que le groupe d'amitié entre la France et Israël puisse contribuer très activement.
Et le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu le 21 mai à Beyrouth, au Liban. Au menu des discussions, l'extension de l'autorité du pouvoir libanais au camp des réfugiés palestiniens échappant à son contrôle. Les détails avec Nadia Bencher.
Radio Orient, Focus.
Mahmoud Abbas attendu le 21 mai au Liban. Au menu des discussions, l'extension de l'autorité du pouvoir libanais aux camps de réfugiés palestiniens échappant à son contrôle. Environ 250 000 réfugiés palestiniens vivent aujourd'hui dans des camps surpeuplés au Liban. Ces camps abritent non seulement des membres du Fatah fidèles à Mahmoud Abbas, mais aussi des partisans du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Le 30 avril dernier, le président libanais Joseph Aoun a indiqué que les autorités travailler activement pour retirer les armes lourdes et moyennes de tout le territoire libanais. Une démarche qui pourrait mener à des discussions avec Mahmoud Abbas sur le désarmement des camps palestiniens. De son côté, le Premier ministre Nawaf Salam a souligné l'importance de remettre les armes illégales à l'État et de garantir que des factions comme le Hamas ne mettent pas en danger la stabilité du pays. Le bureau du président palestinien a confirmé la visite de Mahmoud Abbas au Liban prévu pour le 21 mai, après que des membres du Hamas ont été arrêtés pour avoir tiré des roquettes vers Israël, malgré un cessez-le-feu en vigueur. Selon un responsable libanais, Abbas discutera avec les autorités des modalités pour étendre l'autorité de l'État à l'ensemble du territoire, y compris dans les camps palestiniens. Rappelons que selon un accord de longue date, la sécurité dans ces camps est assurée par des factions palestiniennes, l'armée libanaise n'y intervenant pas.
Et dans un tout autre volet, des parlementaires français vont se rendre en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, et ceci dans un contexte de crise entre la France et l'Algérie. Les précisions avec François-Xavier de Calonne. Point Maghreb.
Des parlementaires français se rendent en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945, la répression sanglante par la France des manifestations indépendantistes. Cette délégation se rend en Algérie alors que la situation est bloquée entre Paris et Alger. C'est ce qu'a souligné le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. La crise diplomatique déclenchée en juillet dernier par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n'a cessé de s'amplifier. La décision mi-avril de Paris d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France et de rappeler son ambassadeur à Alger pour consultation en représailles à des expulsions similaires annoncées par l'Algérie a intensifié ces tensions. C'est donc dans ce contexte que plusieurs élus français, dont des députés et sénateurs de la gauche et du centre, sont attendus ce jeudi en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Ces élus français souhaitent, dans le cadre de l'amitié franco-algérienne et du travail de mémoire, honorer les victimes de la répression sanglante par la France des manifestations indépendantistes du 8 mai 1945. C'est ce qu'indique à l'agence France-Presse le député socialiste Laurent Lardite, président du groupe d'amitié France-Algérie. Une journée de commémoration du 8 mai a été décidée en 2020 en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune. Une journée, selon les mots d'Alger, en reconnaissance des énormes sacrifices consentis par le peuple algérien lors des massacres du 8 mai 1945 et du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954.
Direction maintenant la région du Cachemire où la frontière entre l'Inde et le Pakistan s'embrase. Les détails avec Loïc Barrière.
Radio Orient, Focus.
L'Inde et le Pakistan entretiennent des relations conflictuelles rythmées par plusieurs guerres et des périodes de vives tensions. Tout commence en 1947 avec la partition du sous-continent indien par le Royaume-Uni. L'ex-colonie est divisée en deux États, l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition jette sur les routes près de 15 millions de personnes. Émeutes et massacres feront 1 million de victimes. Dès l'automne 1947, éclate la première guerre indo-pakistanaise pour le contrôle du Cachemire rattaché à l'Inde. En 1948, une résolution de l'ONU prévoit un référendum d'autodétermination. Un cessez-le-feu est proclamé le 1er janvier 1949, le long d'une ligne de contrôle qui divise le Cachemire en deux parties. 37% reviennent au Pakistan et 63% à l'Inde. Depuis, de nouvelles guerres ont eu lieu entre les deux pays, d'abord en 1965, puis en 1971. En 1989, des séparatistes réclament l'indépendance ou le rattachement du Cachemire indien au Pakistan. Des combats sanglants ont lieu 10 ans plus tard. Au bord d'un quatrième conflit en 2002, les deux pays renouent leurs liens diplomatiques en 2003. Mais en 2008, une série d'attentats djihadistes cause la mort de 166 personnes à Bombay. L'Inde accuse le Pakistan. Le dialogue ne reprendra qu'en 2011. Il s'ensuivra encore des incidents militaires en 2019.
Et enfin, place maintenant au sport avec Arthur Claude Savoie.
Radio Orient Sport.
Le Paris Saint-Germain peut-il aller décrocher une nouvelle finale de la Ligue des Champions? La réponse ce soir à 21h face à Arsenal. Le PSG mène dans ses demi-finales 1-0 et ce soir a l'occasion d'écrire l'histoire à domicile. Revenons sur les enjeux de cette rencontre avec Jean-Baptiste Guégan, professeur à Sciences Po et conférencier spécialisé dans le sport.
L'enjeu du match pour le Paris Saint-Germain, c'est assez simple. C'est de prouver qu'il est aujourd'hui entré dans la cour des grands clubs européens avec une capacité à être constant tout en offrant du jeu. Et ça, en maximisant ses revenus. Donc cette demi-finale retour, c'est une manière aussi de tourner le passé toujours compliqué du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. C'est déjà l'occasion pour le Paris Saint-Germain de marquer la scène internationale et le football mondial. Pour Arsenal, c'est différent. C'est rattraper finalement le scénario très mal embarqué de la demi-finale aller, perdue à Londres. Et surtout d'essayer de sauver une saison hein, où Arsenal, si le jeu était au rendez-vous, n'a pas gagné de trophée. Donc les deux clubs ont évidemment à gagner à aller en finale de Ligue des Champions. Et des deux, celui qui a le plus d'enjeux, finalement, c'est le PSG, parce que ça fait maintenant, depuis l'arrivée de Tuessi, qu'on attend qu'il performe. Quant à Arsenal, ils peuvent bien attendre une année de plus.
Au match aller, nous avons eu un match assez disputé. Pensez-vous que le scénario sera-t-il le même pendant cette demi-finale retour?
Le scénario du match retour sera complètement différent, puisqu'on est en demi-finale. Le Paris Saint-Germain a un but d'avance après son succès à Londres. On sera sur un match où l'équipe parisienne ne calculera pas. Lucien Riquel l'a dit, on n'est pas là pour ménager notre avantage, mais au contraire pour le confirmer. Donc ce qui va jouer, c'est purement et simplement la victoire. Et puis c'est probablement dans les dernières minutes, si le score est à parité, que les choses se figeront côté parisien. On connaît suffisamment le PSG pour savoir que même avec un but, rien n'est acquis. Hein. Personne n'a oublié la remontada et la défaite contre Barcelone après avoir gagné 4-0 à l'aller. Paris est capable de défier les statistiques, quelles qu'elles soient, et d'écrire l'histoire. Donc je pense que et les suiveurs, les observateurs et les gens au club, ainsi que les joueurs savent tout ça, et il en reste quelques-uns dans l'effectif, hein, comme justement Marquinhos. Il ne faudra pas calculer, il faudra être intelligent et il faudra gagner. Voilà, c'est la seule chose qui va importer pour le Paris Saint-Germain.
Cette rencontre se disputera au Parc des Princes. Les Parisiens peuvent-ils écrire l'histoire devant leur public?
Non seulement les Parisiens vont écrire l'histoire devant leur public, mais en plus le public va les aider à l'écrire. On est sur une conjonction parfaite de situation. Paris mène 1-0 avec un effectif quasiment au complet, dans un cadre où le public sera autrement plus chaud que ce que les Parisiens ont eu à subir à Londres et à Arsenal. Et puis une saison extraordinaire avec la Coupe du Monde des clubs hein, qui viendra probablement parachever une saison qui est d'ores et déjà historique et extraordinaire.
Merci Jean-Baptiste Guégan pour toutes ces précisions. Normalement Dembélé, qui aurait pu être incertain ce soir, sera aligné. Hier, Milan s'est qualifié dans un match au scénario aussi fou qu'à l'aller. Les Milanais devant leur public ont rapidement mené 2-0. La réponse des Barcelonais qui ont rapidement égalisé 2-2 et à la 87e minute, Rafinha a cru pouvoir offrir la qualification au Blaugrana. Mais Acerbi, la toute dernière minute du temps additionnel est venu égaliser. Que rêver de mieux qu'une prolongation dans ce match à rebondissement? C'est Fratesi qui a crucifié tous les espoirs des Catalans à la 99e minute et le portier suisse Yann Sommer a été décisif et a repoussé toutes les tentatives de Barcelone. 4-3 pour Milan qui disputera la finale. On espère un scénario aussi spectaculaire ce soir. Place à du basket maintenant. Monaco écrit son histoire en se qualifiant pour les playoffs de l'Euroleague dans un match tendu jusqu'au bout. L'équipe du Rocher a remporté la rencontre d'un petit point, 85-84 contre Barcelone. Critiqué l'année dernière, Mike James a été impérial et les Monégasques retrouveront l'Olympiakos en demi-finale. Place à l'anecdote du jour, tel père, tel fils, comme son paternel Cristiano Ronaldo Jr. va intégrer l'équipe du Portugal. En effet, la Fédération portugaise de football a annoncé ce mardi la convocation de Cristiano dos Santos, le fils aîné du quintuple Ballon d'Or, avec l'équipe du Portugal U15. Le joueur de 14 ans, qui évolue comme son père à Al Nassr en Arabie Saoudite, a également fait ses programmes dans les pépinières de Manchester United et de la Juventus Turin. La Seleção des moins de 15 ans affronteront le Japon et la Grèce. L'Angleterre aussi, à l'occasion du tournoi de Vlatko Markovic qui se tiendra en Croatie du 13 au 18 mai. Sur une story Instagram, son paternel a évidemment tenu à le féliciter. « Fier de toi mon fils », a-t-il écrit. Merci d'avoir écouté votre émission sport. C'était Arthur-Claude Savoie. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Très belle soirée sur les ondes de Radio Orient.